9h, c'est le rendez-vous avec Émile Proulx-Cloutier. Bonjour.
Bonjour.
Là, c'est parfait parce qu'on arrive à un moment charnière. On est le 11 décembre.
Voilà.
Et là, tu poses la question, comment on fait pour concilier la période du temps des fêtes, de Noël et tout ça, et l'environnement?
Oui, effectivement. Alors, première des choses, évidemment, bon, il y a des achats et tout, on va en parler en fin de chronique, mais il y a surtout des parties, des retrouvailles, des conversations, et donc, ils peuvent mener à des ostinades ou des débats. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais composer une petite trousse de liens qu'on va mettre sur notre page Facebook et notre site web. Je vous mets quelques articles. Tout d'abord, afin de, mettons, si vous voulez nourrir un peu des certains faits récents, être un peu à jour sur ce qui est paru. Il y a un article en anglais donc qui était paru dans la revue Nature le 27 novembre dernier. Il y a un résumé également qui a été fait dans Le Devoir la semaine suivante qui résume pas mal bien l'article. En gros, Nature, c'est une revue scientifique qui est une des plus prestigieuses, notamment pour parler du climat et de plein d'autres choses. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, donc, depuis une vingtaine d'années, parle de points de bascule, c'est-à-dire des phénomènes naturels qui pourraient survenir si la planète se réchauffe trop. Puis dire, OK, et quand même on atteint tout à coup, mettons, on se dit, OK, là, dans un scénario de la planète se réchaufferait de 4 degrés, 5 degrés, on pourrait observer tel phénomène qui, lui, même si on tempère le réchauffement de la planète, ce phénomène-là, lui, est irréversible. Donc, on parle d'un point de bascule, c'est un point de non-retour. Et souvent, ben, on en projetait dans l'avenir, dans certains scénarios qui étaient alarmistes. Mais là, l'article fait état du fait que, certains de ces phénomènes-là, certains de ces points de bascule-là sont déjà observables, plus vite qu'on pensait. Donc, un des auteurs de l'article, Johan Rockström, un chercheur allemand, dit « Nous devons reconnaître que nous avons sous-estimé les risques. » Finalement, même si on peut accuser les scientifiques d'avoir des discours trop alarmistes, mais finalement, il se trouve que la réalité est plus alarmante que le discours alarmiste. Il donne en exemple l'Arctique, donc qui se réchauffe deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale. Le phénomène donc, du réchauffement de l'Arctique provoque des bouleversements importants dans toute la région, notamment la fonte du pergélisol. Le pergélisol, c'est donc un sol qui, le mot le dit, il est gelé en permanence tout le temps, mais là, il commence à fondre. Et ça, on ne pourra pas renverser ce phénomène-là, qui est déjà observable. Dans ce sol-là, il y a des gaz à effet de serre, du CO2, du méthane, qui sont stockés, donc qui n'allaient pas dans l'atmosphère, donc qui n'étaient pas nuisibles, mais là, à cause de la fonte, ils sont relâchés. Donc, le pergélisol, qui n'était pas un problème avant, devient, à cause de la fonte, une source, un émetteur net de CO2 et de méthane.
Ce que tu dis, c'est quoi qu'on fasse? C'est comme réglé.
Réglé. C'est en train de se passer. C'est-à-dire que maintenant, quand on calcule notre espèce de budget carbone, on se dit, OK, ben là, on peut émettre tant de quantités, tant de tonnes de gaz à effet de serre là, avant d'atteindre tel degré de réchauffement, le 2, 3 ou 4 degrés, c'est dépendamment. Mais là, il faut considérer que le pergélisol, lui, est une source nette. Comme si c'était un autre pays qui se mettait à conduire des chars, puis là, il y avait une conséquence lui-même. Mais ça, lui, ils font à cause de quoi? À cause du réchauffement qui est déjà en train d'advenir. Autre phénomène, le réchauffement des océans, qui provoque des épisodes de blanchiment des récifs de coraux. Fait que, donc les récifs qui étaient de toutes les couleurs sont rendus blancs. On voit des photos. Et ça, donc, c'est une fois passé la barre des 1,5 degrés Celsius. Donc, en ce moment, depuis le début de l'ère industrielle, la planète s'est réchauffée de 1 degré. On essaie de ne pas franchir le 1,5, mais ça va être difficile. Si on franchit le 1,5 degré Celsius de réchauffement, pas moins de 70% des récifs risquent de disparaître. Et à 2 degrés Celsius, ça risque d'être 99% des coraux qui seront rayés de la carte, entraînant dans leur sillage des reculs importants de la biodiversité, donc les espèces qui habitent là, qui en nourrissent d'autres, qui éventuellement nous nourrissent nous autres. Fait que notre garde-manger dans l'océan aussi y est menacé. Et l'article explique bien aussi les effets dominos, c'est-à-dire que s'il y a un phénomène qui est observable quelque part, comment ça peut avoir des conséquences ailleurs. Exemple, le recul des glaces en Arctique, ça fait que, évidemment, cette région-là se réchauffe encore plus vite parce que la glace, elle, permettait de garder ça froid. Le recul des glaces amène un afflux important d'eau douce dans l'Atlantique Nord. Ça modifie les courants de cet océan-là. Ça modifie le régime des pluies en Afrique. Puis là, tout à coup, ben, ça y pleut moins à certains endroits puis plus à d'autres. Donc, ça crée des sécheresses. On part des glaces en haut puis on se ramasse à des sécheresses en bas. Certains de ces phénomènes-là sont déjà observables et certains de ces phénomènes-là en cascade, donc l'espèce d'effet domino qui part d'un phénomène qui en entraîne un autre, risquent d'être difficiles à contenir déjà. Donc, en gros, souvent, il y a des gens qui se posent à dire « moi, je suis plutôt un climato-réaliste en opposition à ceux qui sont alarmistes ». Bien là, ce que l'article nous révèle, c'est que la réalité est plus alarmante que le discours alarmiste. Un autre article que je vous soumets, ça va être plus fun plus tard, là, mais je commence par le bout difficile. Un autre bilan, celui du Global Carbon Project, qui est un programme international qui, de recherche qui quantifie chaque année les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Ils disent malgré ces faits-là qu'on observe, la croissance des émissions de gaz à effet de serre produites par la combustion des énergies fossiles se poursuit. Donc, le secteur des énergies fossiles à l'échelle de la planète, il continue à émettre plus de gaz à effet de serre qu'avant. Ça a l'air que la croissance ralentit, mais ça croît quand même. C'est pas en train de décroître. On n'est pas en train d'en émettre moins dans ce secteur-là. La plus forte croissance des émissions du secteur des fossiles se trouve d'ailleurs du côté du gaz naturel. Alors, là, je me dis, bon, ça peut être utile de sortir ces faits-là dans un
soupçon. Ça donne l'argumentaire.
Ça donne l'argumentaire. Sauf que là, j'arrive avec un autre constat que des chercheurs font, c'est que quand on plaque des faits ou de la logique, ou même des faits scientifiques, ou il y a 99% des scientifiques qui pensent telle affaire ou qui observent telle chose, même si tu mets des faits dans la face de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi ou qui se dit climato-sceptique ou plus ou moins, tu sais, ben, ça ne contribue pas à faire changer d'avis.
Alors quoi, t'es mieux de pas en parler?
Ben là, ça c'est la première option. Là, on parle d'autre chose, fait qu'on peut parler de
hockey.
Oui, oui, c'est vrai, c'est un bon sujet d'ascenseur. Avant, on parlait de la météo, mais même là, c'est plus bon. C'est même plus un sujet sur lequel on peut s'entendre. Alors, donc souvent, en fait, le cerveau humain fonctionne pas comme ça. Souvent, c'est pas tant dans la logique implacable, puis les faits, puis étamper quelqu'un dans la bande avec des articles. C'est de trouver une nouvelle manière de jaser. Et voyant devant ce phénomène-là de conversation qui s'envenime et du ton qui est désagréable, la Fondation David Suzuki a lancé récemment un simulateur de conversation autour des changements climatiques. Right. Je vous vois sourire. Donc, ça s'appelle le Climate Bot. Donc, ça se passe par écrit, évidemment, tu jases pas, là, mais ça ressemble un peu à l'interface. Ben, ça s'ouvre dans ton Messenger Facebook, en fait. Donc, c'est une conversation avec le logiciel. Et tu peux faire l'essai, le lien va être sur notre site. Donc, je l'ai fait hier, c'est un peu drôle. Mais l'idée, c'est pas comment planter l'autre. L'idée, c'est juste comment avoir une conversation sereine autour de ce sujet-là. Et amener à comprendre qu'est-ce qui fait que l'autre reste campé sur ses positions. Parce que des fois, ces raisons-là sont des fois émotives. Des fois, Et pourquoi est-ce que quelqu'un peut être réfractaire à l'idée d'une lutte contre les changements climatiques? Pourquoi est-ce que les gens peuvent être fâchés contre ça? Alors, en gros, comment ça se passe, c'est que tu choisis au début de la conversation, le logiciel te demande, toi, là, veux-tu être dans le rôle du climato-sceptique ou dans celui qui est au contraire un militant ou un avocat du climat? Et tu peux choisir. Moi, j'ai fait les deux. Et là, mettons, tu cliques. OK, tu commences. Mettons, moi, je suis pour qu'on prenne des mesures intenses là, pour lutter contre le changement climatique. Alors là, le logiciel fait très bien. Et là, il pose une question. Et là, c'est le logiciel qui te pose une question. Et là, tu as un choix de réponse. Certaines réponses sont hostiles ou à l'attaque et d'autres tentent de comprendre la position de l'autre. Puis finalement, c'est comment avoir une conversation relaxe, non violente, parce que des fois, c'est avec du monde que t'aimes. Alors, c'est assez bien fait, le truc. Fait que là, pour l'instant, c'est juste en anglais, puis il y a une version française qui va exister dans quelques semaines, me dit-on. Et le but, c'est pas encore de faire changer l'autre d'idée. C'est pas une façon de planter l'autre. Non, c'est juste d'arriver à comprendre où l'autre se situe et d'où et qu'est-ce qui est à l'origine de son point de vue ou de sa position. Et en dernier lieu, dernier petit lien qu'on va mettre sur notre site, ça vient du site Just Little Changes. Alors, ça concerne les cadeaux. Donc, comment guider votre réflexion quand vient le temps de choisir des trucs à offrir. Alors, c'est une sorte de pyramide inversée. Donc, plutôt que de partir de « je vais acheter un objet neuf qui a été donc fabriqué, qui a été transporté », ça dépense d'énergie, ça peut éventuellement émettre des gaz à effet de serre, ça avec. Donc déjà, dire, OK, ben, ce qui est mieux qu'un juste un cossin neuf, acheter déjà un objet qui est fait ici, un objet local. Déjà là, on limite un peu l'impact. Encore mieux, on peut le fabriquer soi-même. Acheter des éléments pour fabriquer un cadeau. Encore mieux, acheter quelque chose de seconde main, un objet qui existe déjà, mais qui est encore bon, qu'on peut offrir aussi. Encore mieux, revaloriser un objet qu'on a déjà chez soi, dont on ne sert plus. Ça peut être un livre, un objet, un jouet, peu importe, qu'on se dit « Hey, les enfants ne jouent plus avec ça, c'est encore bon, je l'offre à quelqu'un d'autre. » Donc, revaloriser un objet. Encore mieux, donner, non pas un objet, donner du temps. C'est-à-dire, je t'offre tant d'heures de cuisine, tant d'heures de réno chez vous, tant d'heures de gardiennage, peu importe, ça peut être une belle forme de cadeau qui est réel, qui a un impact dans la vie de l'autre et qui implique pas qu'on fabrique un cossin.
Qu'on n'est pas obligé d'emballer.
Voilà. Et en dernier lieu, ce qui est meilleur, c'est qu'on dit offrir une expérience, offrir de la mémoire. Donc, un billet de spectacle, une sortie au musée, un match de sport.
Là, t'es en conflit d'intérêt. Ouais.
Effectivement, non, j'en fais des choses, sauf que je veux dire, offrir une expérience, je vais faire quelque chose avec toi, je vais t'amener marcher en montagne, je t'offre une mémoire, le fun. Ça sera pas un objet chez vous que tu vas jeter un jour, ça va être une mémoire que tu jetteras jamais.
Merci, Émile, encore une fois. 9h10.